Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce dimanche, on va continuer avec la série sur le livre des juges. Pour ceux qui nous visitent, ça fait plusieurs semaines, voire mois, qu'on étudie le livre des juges, qui est dans l'Ancien Testament. Donc, un livre qui est assez caractérisé par la violence, qui est assez déconcertant. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le chapitre 16 du livre des Juges. On va continuer avec l'histoire de Samson. On a entendu parler de Samson la dernière fois. Et donc, voilà, je vous invite à vous imprégner de cette histoire en la lisant avec moi. Dans cette deuxième partie de l'histoire de Samson, encore beaucoup de rebondissements. Vous allez voir, se croirait presque dans un film de Hollywood. Sauf que là, c'est pas sûr que le héros soit vivant à la fin. Et on va voir que c'est un héros, entre guillemets, particulier. Samson, donc, juge chapitre 16, à partir du verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il y entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'environnèrent et ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1 100 sicles d'argent. Delila dit à Samson, Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, Si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il se sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delila dit à Samson, Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delila prit des cordes neuves avec lesquelles elle lia. Puis elle dit, Les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delila dit à Samson, Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour là à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. J'étais rasé, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant, « Notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Donc, dans ce récit, une fois de plus, on peut voir évidemment l'impulsivité de Samson. Et à la fois, on peut voir sa faiblesse pour les femmes, on peut voir son orgueil. Et pourtant, curieusement, dans le Nouveau Testament, le livre des Hébreux, chapitre 11, fait référence à Samson comme étant un héros de la foi. Alors, de quel héroïsme parle-t-on ? Quand on voit tout ce que fait Samson, son caractère, qui n'est pas si sain que ça. On va voir d'abord que c'est un juge qui se prend pour un héros, puis finalement on verra que c'est un héros, on a oublié les guillemets, esclave de son péché. Et puis c'est ce qui nous conduira à voir aussi le véritable héroïsme. L'héroïsme de la foi. D'abord, on sait que Samson, c'est quelqu'un qui est parfaitement conscient de sa force. Dans le premier récit à Gaza, on ne peut pas dire que Samson soit très préoccupé d'être en plein cœur d'un territoire ennemi. Il est dans la gueule du loup. Il va dans la ville la plus reculée des Philistins, la plus protégée, puisqu'elle est loin d'Israël. Et il rentre dans cette ville, il rentre dans la gueule du loup. Et lorsqu'il quitte Gaza en pleine nuit, on ne peut pas dire non plus qu'il s'est échappé en douce de peur que les soldats l'attrapent. Non, il part en arrachant les portes principales de la ville, qui au passage devait peser quelque chose. C'est quand même, c'est pas les portes des maisons, c'est les portes de la ville. Quoi. À l'époque, il fallait que ce soit costaud. Il les emporte avec lui. Et on a connu mieux comme départ discret en territoire ennemi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il prend aussi les deux portes et les deux poteaux avec la barre qu'il vient d'arracher aussi. Et il les trimballe jusqu'à 60 km de là. 60 kilomètres de là, jusqu'au sommet, en face d'Hébron. Comme ça, tranquille. Ça peut nous faire penser ce type de profil à un certain Obélix quand il provoque les Romains. Prodigieux. La victoire de Samson est manifeste pour tous, puisque les portes de la ville sont placées au point culminant du pays, tel un trophée qui se dresse vers Juda, qui ouvre la porte au peuple d'Israël. Et de cette manière, cette expédition de Samson à Gaza, elle représente encore une autre victoire pour Samson, et à la fois, il arrive au point culminant de sa force. Il arrive à un moment où tout va commencer à basculer. Les choses à ce moment-là vont commencer à se gâter, pour plusieurs raisons. D'abord, la force héroïque de Samson fait qu'il minimise la place de Dieu dans sa vie. D'abord, depuis toujours, on sait que Samson oublie complètement que sa force ne vient pas de ses propres efforts, mais que sa force est un don de Dieu. Et Dieu ne semble pas avoir beaucoup de place dans son cœur. Pourtant, à deux reprises, d'abord dans le chapitre, à la fin du chapitre 15 et ensuite à la fin du chapitre 16, les auteurs nous rappellent que Samson a été juge pendant 20 ans. Ce qui nous fait comprendre que son rôle de leadership a été quand même confirmé par le peuple d'Israël, surtout en raison de sa force physique. Malgré ses défauts de caractère et son manque de sagesse, au fur et à mesure de ses exploits, Samson était venu considérer sa force comme un droit et non comme un don de Dieu. Son vœu nazaréen a perdu toute sa valeur. Il était consacré à Dieu dans le ventre de sa mère et quand il est né, du coup, il y a eu ce vœu. Il faisait la différence, il était consacré, il avait certaines règles à respecter. Mais on l'a vu mépriser l'opinion de ses parents, on l'a vu mépriser la loi israélite. Il était censé ne pas toucher les morts, il commence à toucher les cadavres de lions, il est dans l'adultère, etc., etc. Et c'est sûrement pour ça qu'il a exprimé à Dalila le secret de sa force à son vœu, puisque pour lui, ce vœu n'avait plus vraiment de valeur. Quand l'amour de soi-même prend le dessus sur l'amour de Dieu dans nos vies, celui qui guide nos vies n'est plus vraiment Dieu. C'est le péché. Il ne s'agit pas de nous rejeter nous-mêmes, de s'auto-rejeter automatiquement. Non, Dieu, dans les évangiles, dit que les deux commandements les plus importants, c'est d'abord d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Mais la tentation de l'homme est toujours de se défocaliser, de tout défocaliser sur soi-même. Et Dieu n'est plus à la première place. Manifestement, c'est le cas de Samson. Pour lui, le héros, ce n'est pas Dieu, c'est lui. Il a été présenté comme un juge en Israël, mais toute sa vie est centrée sur lui-même et au lieu de Dieu et de se focaliser sur le plan de Dieu avec le peuple d'Israël. On a découvert dans les derniers chapitres 14 et 15 ses désirs de vengeance personnelle pour le sortir de ses ennuis, notamment avec les femmes. Et sa dernière relation avec Dalila montre réellement un pur égoïsme. Et donc, on parle là du péché de la présomption de force. La présomption, c'est avoir une opinion trop avantageuse de soi-même. La vie de Samson repose sur sa propre force qui a été souvent à son avantage pour se sortir des situations problématiques. Samson est dans l'insouciance. Je gère l'affaire. Je m'en tirerai. Oh, j'y vais au culot. Et parfois, même en considérant Dieu dans nos cœurs, on peut penser, bon, de toute façon, Dieu qui est bien miséricordieux, Dieu est amour, Dieu viendra bien me secourir. Ça va le faire. Je vais m'arranger avec lui. La présomption On peut l'apercevoir aussi dans les évangiles chez Pierre, quand il prétend, quand il dit à Jésus, je renierai jamais moi. Non. Et puis finalement, Jésus sait qu'il le reniera. Et effectivement, il l'a renié 3 fois. En disant ça, il ignorait complètement ses faiblesses. Dans le deuxième récit de Samson, dans son aventure avec Dalila, Samson pense certainement que sa force physique digne d'un héros le délivrera une fois de plus de son propre faible pour les femmes, d'une manière ou d'une autre, sauf qu'il ignorait les dangers de son atout, de son succès, de sa force. Nos cœurs pécheurs trouvent souvent le moyen d'utiliser la même bénédiction de Dieu pour ruiner nos vies. Samson aime se mettre dans les situations extrêmes. Il flirte avec le danger. De par son amour pour les jeux, pour les énigmes, il aime taquiner, il aime provoquer. Il est devenu même accro au danger. Il cherche le danger. Il cherche le danger parce qu'il sait que les succès potentiels de sa force pourront alimenter et alimenter excessivement son auto-estime. Comme Dieu n'est plus à la première place, il a besoin constamment d'auto-estime et il va chercher la gloire à travers de sa propre force. Autrement dit, le cœur de Samson a utilisé les bénédictions de Dieu pour sa propre gloire, pour son propre plaisir. L'apôtre Paul, dans les évangiles, nous avertit de ce danger. Dans Romains, dans la lettre aux Romains, chapitre 1, versets 20-23, quand il dit qu'une des pires des choses que Dieu puisse nous faire, c'est de nous donner ce que l'on souhaite, le succès. Le succès. Paul dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Paul se réfère aux hommes qui retiennent injustement la vérité. On entend souvent dire que les personnes qui ont l'impression de s'autosuffire ont tendance à être des personnes les plus éloignées de Dieu. Oh, pas besoin de Dieu, je réussis dans la vie. Dieu, c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui ont des problèmes psychologiques. Moi, je n'ai pas de problème. Je m'en sors. Tout comme Samson a ignoré la bénédiction de Dieu en pensant « Je ne peux pas être vaincu, donc je peux vivre comme je veux. » Ainsi, les gens qui réussissent ignorent souvent la bénédiction de Dieu. J'ai un bon boulot, une belle bagnole, une belle maison. Pourquoi j'ai ça? Parce que je suis quand même intelligent. J'ai réussi, je me suis forcé, je me suis donné. Et puis je suis libre et autonome. Alors qu'en vérité, je deviens esclave de ce monde, de la réalité de ce monde, du matérialisme, de l'adultère et de plein d'autres réalités spirituelles. Et ici, Samson, ce juge qui se croit héros, parce qu'il est tellement fort et tellement orgueilleux, devient esclave. Il est enchaîné, il est esclave de son orgueil, de sa présomption. Ce péché lui rend complètement aveugle de ses faiblesses. Samson est parfaitement inconscient de ses faiblesses. Samson est esclave de son péché. Peu à peu, à cause de sa force, il s'autorise à repousser ses limites dans le péché, en méprisant toujours plus sa consécration. Ça commence par des petites enfreintes à la règle, comme toucher le cadavre d'un lion. Alors peut-être il va dire « Ah, mais je ne l'ai pas touché, c'est le miel que j'ai touché. » Bon, ça, on l'a vu dans le chapitre 14 et 15. Et voilà. Et puis, il franchit d'autres limites. Et puis ces petites autorisations de péché se transforment en pulsions incontrôlables qui auront des conséquences fatales et irréversibles. Pour illustrer ça, on pourrait comprendre cette réalité avec ce bonhomme qui donne à petite dose, qui alimente ce serpent. Le péché que tu prends le soin de nourrir aujourd'hui, demain finira par se nourrir de toi. Ça, c'est la réalité la réalité du péché, la réalité de Samson. Samson est enchaîné par ses pulsions parce que quand il voit quelque chose qu'il désire, il le veut de suite et il le prend. Des pulsions de violence, des pulsions de vengeance, des pulsions de jouer avec le feu. Dans ce chapitre 16, on souligne particulièrement ses caprices affectifs, voire ses pulsions sexuelles qui le conduisent vers un profil de femme mesquine, qui finalement, ce profil est au même niveau que son profil orgueilleux et impulsif. C'est lui-même qui se cherche, il s'attire des profils égaux à lui-même. Il place sa confiance dans des gens indignes de confiance et placer sa confiance dans des gens indignes de confiance ne peut aboutir qu'au désastre. C'est cette relation toxique qui marquera sa chute et qui le conduira jusqu'à sa mort. Il est enchaîné par ses pulsions affectives, sexuelles. Et les Philistins ont bien compris ça. Ils ont discerné cette faiblesse de Samson pour les femmes. Dans le verset 5, on le voit bien. « Flatte-le !» quand les Philistins disent à Dalila, « Flatte-le !» Comme ça, on verra d'où vient sa grande force et on pourra nous rendre maître de lui. On le lira pour le dompter et on le donnera. Là, il propose de l'argent, une grosse somme d'argent à Dalila. Et donc, comme il est aveuglé par son péché, Dalila pourra accomplir sans problème sa mission de trahir Samson. Ce qui la motive, c'est peut-être non seulement l'argent qu'elle recevra en échange, mais c'est également la possibilité de devenir une héroïne nationale en livrant le pire ennemi des Philistins. Elle est aussi dans la présomption. Donc, comme elle est dans la présomption, elle est assez directe. Sa première question à Samson est ridiculement évidente. « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ? Et avec quoi il faut te lier pour te dompter ?» Donc, il lui ment, il lui répond qu'il faut l'attacher avec 7 lanières non séchées. Et alors elle l'attache, puis elle le regarde sans effort casser ses lanières. Et puis ce qui est surprenant après, c'est que Samson reste. Il est toujours là, à l'écouter. Pourquoi il joue encore à un jeu si dangereux ? Il est naïf, ou bien on sait qu'il aime jouer avec le danger. En tout cas, il est motivé par son amour, trop confiant. Et il est dans la manipulation. Et malgré les diverses tentatives échouées, Dalila ne lâche pas le morceau. Elle fait appel maintenant au sentiment de Samson. « Comment tu peux dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Là, on peut dire que Samson est aveuglé par cette femme. On peut le confirmer et elle en profite. Le chantage affectif est là et l'hypocrisie est à son comble. Contre tout bon sens, il se confie à elle, il n'est pas digne de confiance, puis il ouvre son cœur. Et en révélant son vœu, il se livre à l'ennemi, sans se rendre compte. Et comme il se livre à l'ennemi, c'est une décision personnelle. L'Esprit de l'Éternel se retire de lui. Il perd sa force et il ne vit plus selon son appel. Ce n'est pas que l'Éternel est impuissant et qu'il n'arrive plus à être en lui. Non, là c'est le choix de Samson qui a fait de se livrer à l'ennemi. Notre Dieu, l'Éternel, est un Dieu puissant. Il est souverain, il est victorieux. Mais si nos choix, si on décide de ne plus le suivre et de se tourner vers l'ennemi, l'Éternel est un Dieu d'amour, il ne veut pas s'imposer à nous. Ce ne serait pas un Dieu d'amour. Samson a fait ce choix-là. La situation de Samson est dramatique et il ne vit plus du tout pour son appel. Mais à la fois, cette situation, on peut se demander pourquoi on en arrivait jusque-là. Non ? Cette situation illustre aussi celle d'Israël, du peuple d'Israël, la réalité de ce peuple. Dans Samson, Israël devait pouvoir se voir. Samson était le miroir d'Israël. Samson est venu au monde d'une manière prometteuse. Dieu a fait de lui un homme fort et redoutable. Et de la même manière, Israël a reçu la grâce sur la grâce. Mais Israël poursuit constamment ses affaires avec les idoles, cananéennes, philistines, en supposant que tout va bien, que le Seigneur sera toujours à sa disposition, le Seigneur est miséricordieux, il finira par nous sauver. Israël est aussi esclave de son péché. Ce peuple, comme les idoles, s'est montré indigne de confiance. Et pourtant, à l'encontre du bon sens, le peuple continue à ignorer les leçons du passé. Pourquoi ? Parce que comme Samson, ce peuple est aveuglé par son péché. Samson, qui était aveuglé par sa force et ne voyait pas ses faiblesses, devient alors littéralement aveugle. Les Philistins lui arrachent les yeux, il devient aveugle. Lui qui était dompté par sa présomption, il devient littéralement lié et dompté par les Philistins. Malgré tout, son ministère d'enseignement se poursuit, mais à son insu. Dieu continue à l'utiliser pour instruire Israël et pour montrer à Israël les conséquences du compromis, quand on est dans le compromis. Puisque Samson n'a pas vraiment valorisé son appel divin, son monde bascule. Lui qui avait triomphé à Gaza, il se retrouve maintenant prisonnier à Gaza. Lui qui avait éliminé les Philistins avec une simple mâchoire d'âne, il avait éliminé des milliers de Philistins, il se retrouve attaché à une meule pour moudre du blé, comme un âne est attaché pour moudre du blé. Lui qui avait détruit les moissons de blé des Philistins se voit contraint de moudre ces graines de blé de l'ennemi. Ce juge sans entrave, qui cherchait seulement à satisfaire ses désirs, se retrouve maintenant au fond du trou, attaché avec des chaînes qu'il ne peut pas casser et réduit à faire le bouffon pour amuser ses ennemis. Mais Dieu, notre Dieu, est souverain et a toujours le dernier mot. Un signe précurseur d'un renouveau, on voit au verset 22 que les cheveux de sa tête recommencent à croître. Les Philistins, on pourrait penser, mais pourquoi ils n'ont pas recoupé les cheveux, s'ils ont compris? Mais ils pensaient sûrement utiliser cette force à leur avantage. Vu que Samson est désormais aveugle, ça les assure qu'ils ne pourraient plus les combattre. Et en même temps, dans ce moment, en même temps que ses cheveux repoussent, Samson se repent et invoque l'Éternel. Et c'est peut-être pour ça que ses cheveux repoussent. Il invoque l'Éternel. « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » À ce moment-là, Samson décide de s'en remettre à Dieu. Car il a peut-être compris que sans Dieu, il n'y arrivera pas. Cette image, elle peut nous rappeler celle du fils prodigue, à qui lui aussi tout lui réussissait, et à qui le péché de présomption l'a conduit à toucher le fond, dans la misère, dans la faim et au milieu des porcs. Ici, Samson commence à comprendre que sa force ne vient pas de lui, mais de Dieu. Que ce soit pour l'ancien Israël dans l'Ancien Testament ou pour l'Église d'aujourd'hui, la tragédie de Samson parle toujours. Pour ne pas succomber à la présomption, appuyons-nous sur Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'héroïsme, le véritable héroïsme de la foi. Le véritable héroïsme de la foi, d'abord, on le retrouve en se repentant. Et quand on se repent, on recourt à la prière. Samson décide de prier après s'être repenti. Lorsque on est en autosuffisance, on n'a pas besoin de prière. La nécessité ne s'en fait pas ressentir et la présomption prend le pas sur la repentance. Et même, même si on est dans une attitude de repentance, on prie pour que Dieu nous délivre, mais est-ce qu'on prie assez pour la tentation avant d'être dans le péché? Tout le monde connaît notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation, c'est la racine du péché, c'est la base. C'est ce qui vient, c'est ce qui provoque le péché, la tentation. Une arme pour ne pas tomber dans la présomption, c'est d'abord de se souvenir de notre faiblesse et puis de prier pour la tentation, de cette faiblesse que nous connaissons dans nos cœurs. Si on ne connaît pas nos faiblesses, demandons à Dieu de mettre en lumière nos faiblesses dans nos cœurs. Le psaume 50, verset 15, dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu encourage le peuple d'Israël, dans sa nature pécheresse, à invoquer le Seigneur au jour de la détresse. Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce, et lorsqu'on l'invoque, il nous permettra de retrouver la force perdue. Et c'est le cas de Samson. Alors on peut se demander, mais est-ce que Samson mérite vraiment la miséricorde de Dieu avec tous les désastres qu'il a fait, avec son égoïsme si puissant? Alors c'est vrai qu'on peut se demander. On peut penser que non, il ne le mérite pas du tout. On peut avoir vraiment du mal à le qualifier de héros, étant donné son caractère qui ne change pas, qui n'évolue pas. Et c'est vrai que le caractère, même en invoquant le Seigneur, alors il se repent, mais à la fin il dit que les Philistins sont à mort afin de tirer vengeance pour ses deux propres yeux. Il pense encore à lui, il n'évoque pas le peuple d'Israël. Alors, les faiblesses restent, mais il se repent. Il reste faible. Mais à la fois, ceux qui pensent comme ça, que Samson ne mérite pas cette qualification de héros, est-ce que, si on pense ça, est-ce qu'on a conscience de notre propre dépravation? Samson a été décevant car il est tombé beaucoup de fois, mais il est un héros de la foi parce qu'à la fin, il est mort un héros. C'est dans la défaite qu'il s'est repenti et qu'il a éliminé ses ennemis et qu'il a ainsi délivré le peuple d'Israël de l'oppression philistine. Et ça, c'est un réel encouragement pour nous. Samson est mentionné dans Hébreux 11 comme héros de la foi. En fait, le thème dans ce chapitre d'Hébreux, il mentionne aussi beaucoup d'autres personnages de l'Ancien Testament comme étant héros de la foi. Mais le thème dans ce chapitre d'Hébreux, c'est n'abandonnez pas, persévérez dans la foi, revenez dans votre foi en Dieu. Dieu connaît nos limites, Dieu connaît nos faiblesses. Dieu n'approuve pas nos faiblesses. Et notre péché a des conséquences toujours. Mais Dieu veut nous délivrer de la tentation et du péché. Dieu connaissait parfaitement Samson. Certes, Samson était ce qu'il était. Mais malgré ça, à un moment donné, cet homme se repent. Et il invoque Dieu en demandant justice pour ses yeux, encore une fois centré sur l'humain. Mais peu importe, Dieu répondra favorablement à sa prière et fera grâce pour le peuple d'Israël en le délivrant de la domination philistine. Et elle est là, la grâce de Dieu. Aujourd'hui, cette grâce de Dieu ne repose pas à un homme imparfait comme Samson, puisque nous sommes tous imparfaits. Mais cette grâce aujourd'hui, elle est en Christ. Je ne sais pas si ce matin, certains ici présents connaissent Jésus. Beaucoup, certainement, peuvent prétendre le connaître d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous invite à tourner notre regard, non pas vers celui qui est humain comme Samson avec ses faiblesses, mais bien vers celui qui est sans péché, celui qui ne jouait pas avec la tentation, celui qui faisait plutôt fuir la tentation à travers de la prière, puisqu'on sait que Jésus priait aussi. Il a été aussi tenté. Celui comme Samson a été moqué, humilié. Jésus qui s'est aussi livré à l'ennemi, il s'est livré non pas à cause de ses péchés, puisqu'il n'en avait pas, mais il s'est livré pour porter tous les péchés des hommes. Celui qui est mort sur la croix, non seulement pour nous délivrer de l'ennemi, mais aussi pour nous donner la vie éternelle. Celui qui transforme nos faiblesses en force. Si on se sent au fond du trou, Dieu nous invite à tourner notre regard vers lui et à se relever et à suivre l'exemple de l'héros parfait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de juge ni de roi pour avoir la vie éternelle parce que Jésus, par son sacrifice à la croix, porte tous nos péchés une fois pour toutes et sa résurrection nous permet de l'accueillir dans nos cœurs. Souvent, lorsque quelqu'un ne connaît pas Jésus, voit un chrétien passer par une épreuve et voit ce chrétien persévérer dans sa foi, ce chrétien donne un témoignage vivant de Jésus. Mais alors la personne souvent pose cette question, d'où vient ta force? D'où vient cette paix que tu as? Et la force de celui qui a la foi en Jésus ne vient pas de lui, mais de sa relation avec Jésus. Les Philistins, eux, ils pensaient que la force de Samson relevait d'un pouvoir magique qui dépendait de conditions extérieures, de pouvoirs extérieurs à lui. Mais la puissance de Dieu est différente. Ça dépend des conditions internes, c'est-à-dire d'une relation de cœur. Comme le disait Vincent avant, une relation d'amour, être amoureux de Jésus-Christ. Il n'y a pas de puissance divine sans cette relation, sans le disciple. Jésus a envoyé ses disciples avec la puissance du Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, à condition que nous soyons en relation avec lui. La puissance de Dieu découle de cet engagement à aimer Dieu et à le servir. Et cette force dépend toujours de Dieu, pas de nous. Nous pouvons penser que nous ne croyons pas à la magie comme les Philistins, puisqu'on est chrétien, on ne croit pas à tout ce qui est magique. Mais des fois, c'est très facile de le faire d'une perspective chrétienne. C'est-à-dire, parfois, on peut être un peu comme Samson, on est dans la présomption, et on pense qu'il ne nous bénira que si on s'appuie sur des bons boutons, si on en appuie sur les bons boutons, si on trouve la bonne recette, Dieu va nous bénir. On le fait plus mécaniquement, on pratique notre foi plus mécaniquement, par habitude. On fait des choses bonnes, mécaniquement. Mais est-ce qu'on le fait réellement, avec un cœur en relation avec Christ? Est-ce que l'intention dans notre cœur est avec Christ de par une relation intime et amoureuse avec Jésus? Notre vie chrétienne doit provenir d'une relation avec Dieu pour lutter contre l'ennemi de ce monde. Tim Keller parle de ces graines mauvaises qui poussent, qui germent tous les jours dans notre cœur. Et c'est vrai, la vie de chrétien est une repentance quotidienne pour tuer ces petites graines mauvaises de mort qui cherchent à pousser dans notre cœur. Sans ça, sans cette repentance, sans cette lutte contre ces graines, les péchés prennent racine. La tentation est là, le péché est là, il prend racine et il conduit à la destruction. Les points faibles de Samson, avec ses désirs de vengeance violente et ses désirs d'adultère, font écho vraiment dans notre société actuelle. La société actuelle banalise toujours plus les violences, Il suffit d'allumer la télé pour voir que toute forme de violence en ce moment, c'est les émeutes. Il y a d'autres formes de violence et la société, finalement, voit toujours plus de violence. Et il en va de même pour les désirs affectifs, les pulsions sexuelles qui sont normalisées dans toutes ces formes. Un des fléaux actuels qui concerne une grande partie de notre société et où l'Église n'est pas épargnée, malheureusement, c'est la pornographie. Les effets sont destructifs au niveau affectif, sexuel, au niveau psychologique. La dépression, l'anxiété, la perte de l'estime de soi font des ravages à cause de ça. Récemment, il y a un mois, l'ARCOM, la société qui gère tous les médias en France, a publié cette réalité, ces chiffres-là. Chaque mois, 51% des garçons de 12-13 ans se rendent sur un site pour adultes. Et la tranche d'âge au-dessus, on passe à 65%. Donc on n'imagine même pas les tranches d'âge après. Les adultes ne sont pas épargnés du tout. Ici, on parle juste des jeunes, des ados. On est face à cette réalité. On vit dans un monde qui normalise tout ça. Et comment va-t-on se positionner personnellement face à ça en tant que disciple de Jésus? C'est une lutte sur laquelle tout le monde ici, à un moment donné ou à une autre, on sera exposé à nous positionner personnellement, dans nos cœurs, en intimité avec Dieu. Et dans cette lutte, d'abord, on a le choix entre choisir ce chemin et donner à manger à ce petit péché, peut-être te comparer, être dans la présomption. Non, mais de toute façon, moi, je connais mes limites, et je sais que je ne vais pas faire plus que ça. Allez, je laisse passer une image, ce n'est pas grave. Et puis, peut-être on m'a repoussé des limites à chaque fois. Parce que de toute façon, il y a pire que nous à chaque fois. Là, on choisit quand même le chemin de la destruction. Mais Dieu nous rappelle dans sa parole de choisir la vie. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20, Dieu dit à Israël, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. » Oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'en finir définitivement avec ça. La société nous fait croire que ce n'est pas possible. Non, il faut écouter son corps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans le déni de ça. Tu dois faire ce qui te plaît, ton plaisir. Tu dois satisfaire à tes désirs. Pourtant, la parole nous dit que oui, c'est possible d'être libéré de ça, de ces chaînes. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible en Jésus. Il ne s'agit pas de faire un vœu nazaréen, de se laisser pousser les cheveux. Non, on n'en est pas là. Ici, on est actuellement avec la nouvelle alliance en Jésus. Dans Galates, chapitre 5, verset 24, Paul dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marcherons aussi selon l'Esprit. » Oui, c'est possible de vivre en toute liberté. Et Dieu nous donne la vie si nous choisissons ce chemin-là. On ne peut pas rester seul dans cette lutte. Si je suis dans cette lutte, je ne peux pas rester seul parce que dans cette lutte, Dieu aussi a créé l'Église pour ça, pour qu'entre frères et sœurs, on puisse mettre en lumière nos péchés, on puisse s'édifier avec ça. Non seulement à travers de la parole, en intimité, mais aussi à travers l'Église, à travers les groupes de croissance, à travers les cellules, à travers d'un ami de confiance à qui je peux me livrer. Et puis, par la prière, en prévenant la tentation. Si je connais mes faiblesses, si j'ai une faiblesse avec ça, alors prions pour la tentation. Parce que si c'est ma faiblesse, je vais être tenté pour ça. Prions que Dieu soit là avant que la tentation arrive. Pour terminer, on peut se poser cette question. Si, tout comme Samson, est-ce qu'on va attendre d'être au fond du trou pour revenir à Dieu? Ou est-ce qu'on est déjà tombé très profond plusieurs fois dans le trou, comme Samson? Dans tous les cas, il est encore temps pour toi de revenir à Jésus, car il t'attend les bras ouverts pour que tu puisses expérimenter sa force et sa délivrance et qu'il puisse te donner la vie pleine et la vie éternelle. Peut-être on se sent beaucoup loin, éloigné de, ou beaucoup plus sain que Samson. On ne se sent pas forcément au fond du trou, mais si c'est le cas, examinons nos cœurs, car ça commence à sentir déjà la présomption. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu tout puissant, Seigneur. Et tu nous laisses la liberté de te choisir, de te suivre. Merci parce que tu es un Dieu constamment présent, Seigneur. Et tu nous connais parfaitement, Seigneur. Tu connaissais aussi Samson parfaitement. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la vie, Seigneur. Tu nous donnes cette possibilité d'être fort dans nos luttes, Seigneur, comme on l'a chanté ce matin. Je suis fort quand je suis avec toi, Seigneur. Merci parce que quand tu es fort dans nos faiblesses, tu es aussi un témoignage pour d'autres personnes qui nous entourent, Seigneur. Et je te prie ce matin que ton Église puisse te glorifier, Seigneur, que toute ton Église réunie ici ce matin, Seigneur, puisse être forte, Seigneur, dans sa faiblesse, Seigneur. Qu'elle puisse être forte en toi, en Christ. Que tu puisses être fort dans les faiblesses, Seigneur. Je te prie que tu sois là, dans notre quotidien, Seigneur, que tu nous aides à éradiquer ces graines qui sont en nous chaque jour, Seigneur. Et je te prie que vraiment tu nous aides à te glorifier, Seigneur, par la victoire qui est en toi, Seigneur, sur le péché et sur la tentation. Et que, si, ouais, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies et sur toute la terre. Au nom de Jésus. Amen.